C'est la comédie événement de ce début d'année, c'est le coup de cœur des cinémas pâtés. Nous les Leroy est au cœur de cet épisode spécial du podcast enregistré en public en compagnie de Florent Bernard, son réalisateur. Séance tenante saison 3, épisode 15 et en public, c'est parti. Bonsoir à toutes, bonsoir à tous et bienvenue dans Séance Tenante, le podcast des cinémas pâtés, dans un épisode bien particulier puisqu'on se retrouve ici au Pâté Alésia en public. Merci beaucoup pour commencer d'être avec nous pour ce premier épisode en public du podcast à Paris. On va donc recevoir dans quelques instants le réalisateur de Nous les Leroy dans cet épisode spécial comme je vous l'ai dit. Mais avant ça, bonsoir à l'équipe du podcast, bonsoir Gaël.
Salut Alexis, wow.
Ça commence déjà très fort, il n'a pas de micro, bonsoir Lisa.
Tiens.
Salut Alexis.
Qui de facto n'avait pas non plus de micro. Et bonsoir Robin.
Et bonsoir Alexis.
Nous les Leroy, c'est donc le film coup de cœur des cinémas pâtés. On va revenir juste en quelques mots avant de revenir avant d'accueillir son réalisateur sur pourquoi on a aimé ce film et pourquoi c'est un coup de cœur et pourquoi on est très content de rencontrer le réalisateur ce soir. En quelques mots Gaël, pourquoi, qu'est-ce qui t'a marqué dans ce Nous les Leroy?
Moi, ce qui m'a marqué surtout, c'est lui, José Garcia, que je trouvais extraordinaire et qui, à mon sens, incarne ce que j'aime vraiment dans le film, c'est-à-dire qu'il est à la fois extrêmement drôle, comme on le connaît, c'est-à-dire déjanté, et en même temps, je trouve qu'il y a des moments où il devient très mélancolique, très triste, parfois même un peu sombre, et je trouve que ce mélange-là est à l'image du film, qui est parfois indiscernable, c'est-à-dire on rit beaucoup et en même temps, il y a des moments qui serrent le cœur, et je trouve que en ça, José Garcia m'a vraiment impressionné.
Lisa ?
Moi, il y a plusieurs choses, mais vraiment la chose que je retiens peut-être le plus de ce film-là, c'est à la fois son discours très personnel, très autobiographique, filmé presque à hauteur d'enfant, parce que on va y revenir, Florent Bernard s'inspire de sa propre vie. Et en même temps, il y a ce discours hyper universel où au final, dans peut-être chaque parent ou dans certains personnages majoritairement, tu as ce discours universel en fait. Et ces deux lectures-là sont hyper intéressantes en fait. En plus dans une comédie.
Et Robin,
je pense pour moi que ça serait la façon dont il joue avec les genres, notamment avec les deux personnages principaux, donc Charlotte et José, et la façon dont il joue avec nos attentes aussi de ce que doit représenter un couple ou pas. Et toi, Alexis ?
Oh, c'est gentil pour cette petite relance totalement improvisée.
Elle était improvisée.
Formidable. Non, pour moi, c'est le l'aspect de cette France des parkings qui nous monte pendant près de deux heures. C'est cette toile de fond qui est presque un personnage au final. Hein. Il va la sublimer pour en faire ce qu'on voit dans le film. Et j'aime beaucoup justement le cadre qu'il offre à cette histoire entre tous les personnages de cette famille, Leroy en l'occurrence. Mais pour nous parler du film, bien entendu, il est temps de convier un invité exceptionnel. Il a scénarisé et réalisé de nombreux courts-métrages sur les internets. Il a coécrit deux longs-métrages de cinéma. Il a notamment écrit La Flamme, Le Flambeau ou encore Bloqué. Il vient nous présenter sa première réalisation qu'il écrit par ailleurs. Je vous demande d'accueillir bien chaleureusement Florent Bernard.
Bonsoir.
Comment ça va ?
Ça va, merci de m'accueillir. Bonsoir tout le monde, merci d'être venu aussi nombreux.
Alors déjà en guise d'introduction entre le public et toi, une question peut-être un peu tendaxe des fois, mais là je pense que le film est plutôt réussi et qu'il a plu. Donc juste, est-ce que vous avez aimé le film ?
C'est gentil, merci.
Je préfère mettre ça de côté.
Non mais c'est bien. C'est bien comme ça, s'il y a 2-3 noms, il y en a toujours. On les entend pas, quoi. Cool.
Et puis on peut les sortir très rapidement de la salle. Non, mais une question qui peut être parfois risquée, mais qu'on a tellement aimé le film et j'ai l'impression que la salle aussi, qu'on s'est permis de la poser. Florent, tu es officiellement l'invité que nous avons le plus reçu dans le podcast.
Je suis venu deux fois.
Trois fois.
Trois fois.
Eh oui,
tu es venu. Ah oui, il y a l'Alpe d'Huez, bien sûr.
Eh oui, donc déjà, je pense qu'on peut l'applaudir chaleureusement pour ça.
Non, mais ça fait plaisir, merci beaucoup.
C'est un très beau record.
Et c'est le premier live ou pas du tout ?
C'est le premier live à Paris. On avait déjà fait un à Lyon, mais là c'est la première fois qu'on sent. Si, tu es le
c'est
premier.
Raté, c'est raté.
Version...
Je voulais être le parrain, un truc, c'est raté. C'est raté.
Tu es le parrain de la version parisienne.
Ah, bah, c'est pas
ça
mal.
Ça te va ?
C'est moins bien. Bon, mais je prends.
Écoute, ce genre de petites attentions, on en fait ce qu'on veut. Hein. Des petits bonbons. Mais d'ailleurs, la rencontre avec le public, c'est un peu le sens de ma première question. Le film, t'as eu l'occasion de beaucoup le présenter dans une très très belle tournée d'avant-première qui a réuni beaucoup de monde à travers la France, notamment dans beaucoup de cinémas pâtés, mais beaucoup d'autres aussi. C'est quel genre de moment pour toi de présenter un film devant ces salles-là? Parce qu'on sait que t'as eu l'occasion de rencontrer du public déjà dans des floodcasts en direct, notamment. Mais là, cette fois, tu viens leur présenter un long métrage de cinéma, celui que t'as écrit, qui est un projet de longue date. C'est quel sentiment pour toi d'être là ce soir et de le présenter à beaucoup de gens à travers la France?
C'est très différent de faire les floodcasts en live, parce que les floodcasts en live, on les prépare moins déjà, parce que c'est ce qui fait l'intérêt du floodcast, c'est si c'est trop préparé, les gens le sentent, ils aiment pas ça. Et là, c'est un truc qui est très personnel, et puis c'est pas forcément un truc... C'est rigolo parce que des fois on en parlait autour de la promotion et tout. Il y a des gens qui pouvaient croire que les gens qui suivent ce que je fais en podcast pouvaient être acquis ou je ne sais quoi. Et je crois pas du tout, justement. Je vais pas faire de généralité, mais disons que la grande majorité des gens qui écoutent le podcast, au contraire, ils sentent quand, voilà, ils se gênent pas pour le dire qu'ils aiment pas, etc., etc. Donc forcément, j'étais un peu impressionné. Mais c'est vrai que les retours pour le moment sont chouettes. Les gens retrouvent le ton, l'esprit, et en même temps, j'ai l'impression qu'ils sont un peu surpris parce qu'effectivement c'est une comédie, mais de temps en temps, j'ai bien aimé le mot sombre. Effectivement, moi je pense qu'on va dans des trucs un peu sombres parfois. Il y a un peu de tristesse, de mélancolie, mais il y a aussi des trucs un peu glauques. Et effectivement, j'ai l'impression que le public suit sur ces trucs-là, et ça, je suis très content. Mais c'est bien plus impressionnant. J'ai travaillé tellement de temps sur ce film, et puis c'est tellement le travail de toute une équipe. Alors que bon, si ça rigole pas quand Adrien vient sur scène déguisé en singe, bon, c'est
que demande le peuple.
Non, mais ça m'implique moins, quoi. C'est moins grave. Là, forcément, ça peut être plus dur s'ils aiment pas, quoi.
Et on avait eu donc l'occasion de se voir à l'Alpe d'Huez où t'étais venu présenter le film, dans un mix de stress, d'excitation et peut-être même de réconfort et de fierté quand le lendemain t'avais reçu le Grand Prix de cette édition 2024. Comment ton état d'esprit a changé depuis ce prix-là, depuis ces premières présentations du film au public?
Ah bah c'est pire parce qu'il y a une attente maintenant. Ce qui était chouette en fait à l'Alpe d'Huez, c'est que surtout quand j'y suis allé, en fait le prix on l'a pas eu le lendemain, on l'a eu. C'était vraiment quasiment la semaine entière est passée entre les deux. C'est pas juste pour te reprendre que je dis ça, mais c'est juste que
j'en ai quand même le sentiment.
Non mais parce qu'on avait eu des bons retours, mais moi je me dis oui, mais il y a 9 films derrière, donc il y a potentiellement 9 films bien meilleurs. Et d'ailleurs, enfin j'en suis persuadé, je les ai pas vus, mais je suis pas dans la compète. Et voilà. Et donc du coup, j'étais content, mais je suis surtout anxieux. Et même après le prix, je te jure, je m'en suis pas. J'étais trop content parce que le jury, c'était des gens comme Valérie Bonneton, comme Guillaume de Tonquédec, donc c'était que des comédiens que j'aime beaucoup. Mais je te dis, j'avais surtout la pression de dire putain, le truc a un prix de la comédie. Donc maintenant, les gens ils vont regarder en disant bah vas-y, fais-nous rire. Apparemment, t'as un grand prix de la comédie. Et donc voilà. Donc non, moi je suis toujours dans un truc. Tu vois là, les avant-premières se sont très bien remplies partout en France. Donc pareil, je suis content, mais je peux pas être ravi pour parce que je me dis bah attends, c'est les avant-premières. Donc maintenant, il y a une attente. Est-ce qu'il va remplir des salles avec pas des gens qui suivent ce qu'il fait? Voilà. Donc je suis que du stress. Donc c'est un bonheur de vivre avec moi.
Une boule de stress, exactement. Plus qu'une semaine avant la sortie, donc ça devrait le faire.
Bon, c'est 7 jours, c'est long, c'est très long.
Mais bien sûr. Et maintenant, rentrons peut-être dans le vif du sujet en parlant de la genèse de ce film. T'as eu une riche carrière sur Internet, du Golden Show à aujourd'hui. T'as beaucoup écrit sur des cours chez Golden, chez Studio Bagel. On a parlé des programmes courts et même des programmes longs sur Canal. L'idée de ce long métrage, elle arrive à quel moment pour toi? Déjà, l'idée de faire un long métrage de manière générale?
Ah, bah, l'idée de faire un long métrage, elle arrive avant tout ça, parce que moi, quand j'ai commencé à faire des vidéos sur Internet, c'était pas un métier. C'était juste un truc où, au lieu de faire des courts-métrages et faire le tour des festivals en espérant être sélectionné, d'un coup, on pouvait les foutre sur Internet. Parce que je te raconte ça, c'était début des années 2010. Donc, c'était balbutiant. En fait, c'est ça qui est rigolo avec cette époque, c'est que c'est devenu balbutiant. Année d'après, c'est devenu un business model. Année d'après, il y avait de l'argent. Et année d'après, ça s'est plus ou moins arrêté. Donc, ça a été très rapide, ce moment-là. Donc, moi, j'ai eu de la chance, surtout. C'est le truc qu'on dit jamais quand on parle de comment on travaille, etc., etc. Les gens n'aiment pas trop dire qu'ils ont eu de la chance. Moi, j'ai eu de la chance à 5 ans près. Je bénéficiais pas de cet âge d'or. Donc, ça, c'était cool. Et donc, moi, avant de ça, je voulais faire des films parce que moi, j'ai grandi en regardant des films. J'ai pas grandi en regardant des vidéos sur YouTube. Donc j'ai toujours eu envie de faire ça depuis tout petit. C'était même pas un rêve, c'était que je savais pas quoi faire d'autre. C'est-à-dire que lorsque la conseillère d'orientation me disait oui d'accord, faire des films, mais sinon, Et je disais, bah, je sais pas, projeter des films, louer des cassettes de films. Enfin, j'étais vraiment monomaniaque et ça a pas beaucoup bougé. Donc j'étais un peu emmerdé. Donc, je me suis lancé corps et âme. Il y a eu un deal avec mes parents de, bah, tu sais quoi, on t'aide un an. Et ensuite, après, faut que t'aies du taf dans ce milieu. C'est court. Je le dis quand même, c'est court, un an. Mais voilà, j'ai eu la chance d'Internet. Et donc, du coup, j'ai pu assez rapidement travailler en faisant des petits boulots à côté. Et après, effectivement, Golden Moustache. Mais sur ce film-là, je pense que l'idée vient aux alentours de 2016. Mais je m'autorise pas trop à, encore à écrire dessus parce que ça vient de commencer pour moi vraiment. 2015, c'est l'année où je fais bloquer. 2016, je crois que je sais plus ce que je fais en 2016, mais je commence à écrire, quoi, à des trucs. Et donc, on commence à m'appeler pour écrire sur des choses. Et donc je crois que je commence à rencontrer, je rencontre mes producteurs fin 2017, début 2018, et je me mets vraiment à travailler fin 2018 en parallèle de d'autres trucs. Et donc c'est pas, enfin ça a mis du temps, hein, puisque c'est 6 ans, mais c'est 6 ans où j'ai pas fait que ça, c'est 6 ans où il y a eu le Covid, c'est 6 ans où voilà il s'est passé énormément de choses. Donc mais je dirais 2018, ouais, le début.
Et tu dis, justement, la transition elle est toute trouvée, tu dis que t'as grandi en regardant des films, et moi je voulais te parler justement de l'écriture de tes personnages. À quel moment tu infuses, on va dire, de ta vie, de ton adolescence, de ton enfance, et dans tes personnages, et à quel moment peut-être tu les infuses des archétypes de cinéphiles que t'as regardé, en fait, des personnages que t'as découverts quand toi t'étais adolescent? À quel moment il y a peut-être ce passage entre l'imaginaire et ta réalité à toi, en fait?
C'est marrant, l'imaginaire, j'ai l'impression que c'était plus au niveau de la réale, où effectivement, ces archétypes-là, c'était sur cette façon de les filmer, de les mettre dans l'espace, et puis sur la narration pure, je dirais, effectivement. Même si, du coup, l'idée, c'était de jouer un peu avec ces archétypes, je vais pas trop spoiler, parce que, bon, vous avez vu le film, mais les gens qui écouteront, non. Et, en tout cas, pas tous, mais oui, l'idée, c'était de parce que c'est un genre très codifié, hein, le road trip familial, il y en a eu plein, et pour moi, c'est un genre en soi, tu vois, qui nous vient des States, depuis National Lampoon Vacation, il y en a un milliard, quoi. Donc, moi, je voulais le faire à ma sauce, et effectivement, ma sauce, je pense, c'était de parler d'une espèce de réalité que moi, j'ai vécue, en étant enfant. En fait, l'idée, c'est, j'ai observé ce moment charnière où les enfants s'apprêtent à quitter la maison. Qui est un truc dans une famille qui arrive toujours de, bah, tu commences à 2, puis t'es un groupe, 3, 4, 5, et tu vas redevenir 2. Et ça, ce moment-là, il inquiète, il pose des questions, il crée le doute chez énormément de couples, et c'est normal. En plus, c'est le moment où les ados veulent se casser, ou, enfin, voilà, des choses comme ça. Et je me suis dit, putain, c'est marrant, ce moment-là, je l'ai pas trop vu au cinéma, en tout cas, je me considère comme quelqu'un qui regarde pas mal de films. Je sais pas si je suis cinéphile, mais j'en regarde beaucoup. Et je le voyais pas trop, ce truc-là. À chaque fois, c'était, bah, il y a un adultère, ou il y a, tu vois, des trucs, il y avait toujours des espèces de raisons, alors que, bah, ce truc-là, ça touche tout le monde, quoi. Ce fait que les enfants partent d'une maison à un moment. Et donc, ça s'écrit comme ça. Et donc, la réalité, j'ai plutôt mise dans la façon d'écrire les personnages, leur dialogue. Mon autre volonté, c'est que j'avais vu beaucoup de films sur la famille, écrits à hauteur d'adultes. Bah, c'est ce que tu disais un peu tout à l'heure. Ça m'a fait plaisir parce que c'était exactement l'ambition. Souvent, les adolescents ou les enfants sont un peu mis au second rang. Mais c'est normal, en fait. C'est qu'un film, c'est 1h30, 1h40. Et donc, du coup, faut faire des choix scénaristiques. Et souvent, les scénaristes ou les réalisateurs s'intéressaient plutôt en priorité aux parents. Ou même en priorité parfois aux enfants, mais moi j'avais vraiment envie, c'est pour ça que le film s'appelle Nous les Leroy, que les quatre soient traités quand même à égalité et que les problèmes des adolescents étaient des problèmes à hauteur d'adolescents, à savoir moi et ma copine on va pas à la même fac, je me sens pas exister au sein d'un groupe, des choses comme ça. Parce que souvent dans les films, quand je vois des adolescents, bah c'était dans des drames, quoi, et c'était, il y a des, enfin tu vois, il y en a un qui prend du crack, il y en a une qui se prostitue, c'était toujours des trucs très glauques. Et moi, en tant qu'ado, je me retrouvais pas dans ces films-là. Je me disais, bah non, moi juste, j'ai peur d'avoir amené une mauvaise note, tu vois. Et je me disais,
moi aussi, cinématographique.
Ouais, c'est ça. Mais du coup, quand même, quoi, je me disais, mais c'est pas des petits problèmes. Quand j'étais gamin, ces trucs-là, ça me flinguait le bide, quoi. Et de voir mes parents s'engueuler, ça me mettait pas bien. Et donc, je voulais créer ça. Je voulais faire ça dans le cadre d'une comédie. Pas le créer, ça a déjà été fait, mais dans le cadre d'une comédie, raconter ces choses-là, ouais.
Mais alors, ça va un petit peu avec ta question, Lisa, par rapport au, quand tu te lances dans l'écriture du film, Comment est-ce que tu analyses le fait que justement tu vas pas tomber dans les clichés qu'on pourrait attendre d'une comédie sur un couple avec deux enfants, pour ajouter un peu d'ambiguïté dans leur relation, dans leur façon aussi de jouer entre eux et de se perdre, de se retrouver, etc. Même si on va rien dévoiler de ce qui se passe. À quel moment tu réalises, lorsque tu écris ton film, que là, ça va être plus difficile peut-être à jauger tout en restant dans la comédie?
Oh, mais c'est dès le début. En fait, dès le début, moi, il y a deux choses. C'est que déjà, j'aime bien mélanger comédie et mélancolie. J'aime pas le mot drame parce que je trouve que ça veut tout et rien dire, mais comédie et mélancolie, ça, j'aime bien. Je trouve qu'il y a un truc un peu marrant. C'est ce que j'adore faire, moi. Il y a une scène un peu triste ou de tension et puis juste après, on va mettre une blague ou l'inversement. Il y a une scène très marrante et d'un coup, il y a une phrase qui va tuer l'ambiance. C'est des choses que moi, j'aime bien. Et voilà, donc j'avais envie de faire ça et j'avais envie de partir à fond là-dedans, quoi, sans trop me poser de questions, justement. Je voulais pas mettre sous le tapis des trucs, en gros. Je voulais pas, par exemple, il y a un vrai truc, mais ça, c'est des réalisateurs que j'adore. Je les ai tous mis dans le générique de fin, dans les remerciements, parce que j'ai infusé un peu tout ça, mais c'est ce que font très bien Jaoui Bakri, c'est ce que fait très bien Patrice Lecomte, c'est ce que fait très bien Judd Apatow. Moi, j'aime bien qu'ils mettent pas sous le tapis des comportements, même les plus durs, quoi. Le père, effectivement, il est plus que sombre. Moi, je trouve que c'est vraiment parfois un trou du cul et que son comportement et même s'approche de trucs toxiques, quoi. Tu vois, c'est vraiment un sale con et je voulais pas le mettre sous le tapis et je voulais pas non plus le condamner parce que je pense qu'on a tous le droit d'évoluer et que c'est un peu aussi l'histoire du film. Mais je voulais pas que tout le monde soit sympathique, que tout le monde soit gentil, que tout le monde soit parfait. Moi, je viens pas d'une famille parfaite. Je pense que personne n'a une famille parfaite. Et donc voilà, ça c'était l'autre truc très important pour moi. Et j'ai eu de la chance que des producteurs et des distributeurs me suivent sur ce truc-là. Ils me demandent pas d'édulcorer ces choses-là. Il y a rien de glauquissime, mais il y a des choses. Je sais que pour en discuter des fois à la sortie des salles avec des gens, il y a des choses qui remuent, quoi. Et si en plus on rigole, tu vois, si on peut faire les deux, parce que tout ce que je suis en train de dire. Pour les gens qui n'ont pas vu le film, la comédie n'excuse jamais ça, quoi. Quand ça devient dur ou quand ça devient triste, pendant ça, j'essaye de ne pas mettre de la comédie parce que je veux que ça ressemble à la vraie vie sur ces moments-là. C'est plutôt l'environnement autour. Ma référence, souvent, c'est les Simpsons. C'est les Simpsons, tu as la famille et souvent, ils croisent des tarés, des Ned Flanders, des Krusty le Clown, des Madame Crapabel, etc. Et donc, moi, j'avais un peu ce truc-là. J'avais ma famille Leroy et puis j'avais Adrien Méniel, Sophie-Marie Laroui, voilà, etc.
Et tu parles du casting. Peut-être qu'on peut revenir sur ce duo, José Garcia, Charlotte Gainsbourg. Comment on constitue un duo pareil, une fois qu'on a son scénario terminé, qu'on doit chercher ses personnages? Quelle rencontre c'est avec eux deux? Je ne sais pas si tu les avais déjà rencontrés avant.
Non, jamais, ni l'un ni l'autre.
Quelle rencontre ça a été? À quoi ça ressemble une première lecture sur un film comme ça?
Moi, je connaissais personne hein, dans le cinéma. Si j'avais choisi l'on que je connaissais, ça aurait été avec... avec Amixem et enfin tu vois, ça aurait été autre chose, quoi.
On les salue.
Ouais, non mais bon, je crois pas lui manquer de respect en disant qu'il ne peut pas jouer un homme de 50 ans. Et donc voilà, j'ai réfléchi à des acteurs, mais c'est même avant de l'écrire un scénario, de leur faire lire, j'écris. Moi, j'aime bien que le texte soit vivant. Donc je suis pas un auteur qui va faire la version 34, que ce soit nickel chrome et après j'envoie. Non, moi j'envoie la V3 V4 parce que je trouve que le ton y est, l'envie y est. Et après, on échange. Moi, je suis auteur avant d'être... Enfin, j'étais réalisateur dès le début, mais j'ai plutôt travaillé en tant qu'auteur pour les autres. Donc, je suis très habitué à ce qu'on me renvoie mon texte en me disant bah, « ça, j'y crois pas, ça, je sais pas, ça, je sais truc ». J'ai pas d'ego moi, sur le texte, loin de là. Et j'aime bien travailler avec les acteurs, avec les comédiens. Donc, du coup, moi, Charlotte, par exemple, Charlotte Gainsbourg, moi, je m'autorisais même pas à imaginer d'avoir Charlotte Gainsbourg. La vérité, c'est que quand mes producteurs me demandent « Tu veux qui pour jouer la mère ?», je dis « Bah, une meuf genre dans le style de Charlotte Gainsbourg ». Et ils me disent « Bah, parce que je m'autorisais pas quoi à me dire qu'elle serait intéressée. Elle avait pas fait de comédie depuis longtemps. Moi, quand je lui ai proposé, c'était avant le Danny Boone, etc. Et ils me disent « Bah, nous, on vient de produire, on est en train de produire, je sais jamais la timeline, mais le documentaire qu'elle a fait sur sa mère, Jane by Charlotte. » Donc on a accès à elle, est-ce qu'on veut lui faire lire et tout, donc là forcément je chie dans mon froc et elle le lit et on échange et on fait avancer le personnage parce qu'en vérité elle me dit mais tu vois moi je trouve ça drôle etc, mais là le rôle de la mère je trouve qu'on comprend pas assez pourquoi elle part, du coup elle passe pour une méchante et moi j'étais emmerdé, c'est tout l'inverse de ce que je voulais faire, donc comme quoi ça, c'est important de faire lire les choses aux concernés. Je lui dis bah non pas du tout et tout, et elle me dit mais tu vois et c'est elle qui m'a aidé à aller dans un truc plus vrai sur le père, sur les engueulades, sur les choses comme ça. Donc je la remercierai jamais assez ça pour ça et plein d'autres choses qui font que ce film a pu se faire. Et José Garcia, ben ce qui est rigolo, c'est que quand j'ai voulu lui proposer, il était pas dispo, donc il a même pas lu. On est parti avec un autre acteur qui, pour le coup, était intéressé, etc. On a fait des lectures. Et ensuite, il y a eu le Covid. Et pour être un peu milieu du cinéma, pendant le Covid, tous les acteurs de la Terre ont flippé. Donc, ils ont accepté tous les films de la Terre parce qu'ils avaient peur de plus travailler. Et du coup, nous, bah, moi, sur l'acteur qui devait remplacer José, autant dire qu'il y avait d'autres trucs avant moi, quoi, vu un premier film, etc., qui n'était pas sûr de se faire. Donc, on a galéré. On a eu de la chance que personne ne lâche. Et c'est pour ça qu'encore une fois, je remercie Charlotte, parce qu'elle aurait pu se barrer un milliard de fois, elle ne l'a pas fait. Jusqu'à ce que d'un coup, je dis, mais et José, est-ce qu'on ne peut pas retenter José, quoi? On a retenté José, il était dispo, il a lu à 9h un mercredi, à 16h il m'appelle, il me dit, je le fais. Et c'était trop bien, parce que José, moi j'avais besoin d'un mec, en fait, bah, faut regarder l'affiche, quoi. Il est jovial, sympa. Et j'avais besoin de ça pour que justement, je puisse aller des fois dans des endroits un peu plus durs, un peu plus sombres, que je savais qu'il savait faire, puisqu'il avait fait le coup près ou des choses comme ça. J'avais besoin de ce mec pour qu'on le lâche pas totalement. Sinon, à la première engueulade, on disait, mais quel connard, vas-y, va chier, casse-toi, tu vois. Et j'avais pas envie de ça. J'avais envie que ce soit un personnage plus complexe que ça, qu'on se dise, mais non, parce qu'il a été marrant, il y a eu de l'amour chez ces gens. Donc voilà. Donc, José pouvait apporter ça. En fait, c'est aussi pour ça que ce couple est pour moi extrêmement logique, parce que c'est deux comédiens qui sont aussi à l'aise dans le drame que dans la comédie. Mais ce qui est marrant, c'est que Charlotte est plutôt cataloguée drame, alors que pour moi, elle a joué chez les plus grands auteurs de comédie, puisqu'elle a joué chez Daniel Thompson avec La Bûche, Bertrand Blier avec Merci la vie, Chabal Artigot avec Prête-moi ta main, qui est, je pense, le plus, enfin, moi, un film que j'adore, un de mes préférés. Et José, c'est l'inverse. C'est-à-dire qu'il est plutôt catalogué comédie, alors qu'il a fait Le Coup Près, Extension du domaine de la lutte. Enfin, il a fait des trucs assez incroyables, quoi. Donc, c'était cool. Je pouvais gérer les deux. Et puis, c'est chouette parce que les deux m'ont fait confiance sur un premier film. Et ça a été extrêmement facile, pour être tout à fait honnête. La prépa a été dure, mais le tournage, ça a roulé. Mais vraiment, il n'y a aucun moment où ils ont douté de moi, du texte, de la réal. Ils m'ont fait confiance tout le temps. Surtout que j'ai une méthodologie qui vient d'Internet, où des fois, j'aime bien tester des trucs. Je fais beaucoup de lectures en amont. Des fois, je fais 8 répliques différentes dans la même scène parce que j'ai envie de les avoir au montage. Moi, je suis monteur de profession. Donc, je pense toujours à moi dans la cabine de montage. Donc, des fois, je dis plus en colère, vas-y, encore plus en colère, allez, encore plus en colère. Et en fait, au montage, je prends les 3 prises et je les mélange. C'est des choses qui m'amusent beaucoup et qui, je pense, sont importantes dans le ton que j'essaie de donner.
Et tu parles d'Internet, il y a une logique aussi de ça dans la production. Genre, est-ce que tu te dis que en temps utile dans la journée, je vais essayer d'en avoir un maximum par rapport à l'économie d'échelle dans laquelle tu t'inscris? Parce que Internet, on sait que c'est des budgets assez limités.
Là, c'est 20 balles par vidéo, voilà, à peu près, ouais.
Et de Twix. Mais ouais, là, il y a peut-être un peu plus d'argent. Mais est-ce que comment ça s'inscrit, ça, dans la logique de réel?
En fait, c'est pas conscient, je crois. C'est ça qui était chouette, même d'ailleurs. Parce qu'il n'y a pas un truc de OK, les gars, on va faire un max de minutes utiles. Non, c'est que c'était pas conscient et que j'ai eu la chance d'avoir un directeur photo qui s'appelle Julien Hirsch, qui a son équipe et qui est un directeur photo qui travaille vite et bien. Des fois, t'as l'un, des fois, t'as l'autre. T'as rarement les deux. Julien Hirsch en fait partie, donc j'ai eu beaucoup de chance de l'avoir avec moi. Et non, je pense que c'est juste comme ça que j'ai appris la réal. Donc, il y a un moment où bah, c'est comme ça que je réalise. Et moi, j'aime bien qu'une fois on est en place, je ne fais pas de répétition sur le plateau. Je fais beaucoup de répètes avant le tournage, mais sur le plateau, on tourne tout de suite parce que je pars du principe qu'on est en numérique. Et encore une fois, je pense au montage. Donc, je me dis, mais même avant le action, un regard de José, je peux l'utiliser quelque part. Donc, je fais beaucoup je tourne beaucoup, disons. Mais ça ne veut pas dire que je ne sais pas ce que je tourne. Je sais très précis dans ma tête. Mais juste, je m'ouvre des possibilités. Et ça, je sais que ça vient d'Internet, ça vient de savoir s'adapter très vite au problème aussi. Du coup, des fois, on a des soucis, pas de soucis, tac, on se remet en place, on change les trucs, on s'attache pas au découpage. Le fait d'être toujours mobile et d'être toujours prêt à s'adapter, ça, je pense que c'est un truc qui me vient d'Internet, ouais.
J'avais une question sur José. Je disais tout à l'heure, j'ai l'impression qu'il incarne complètement le ton de ton film. C'est-à-dire à la fois, tu le dis, super sombre et en même temps avec des trucs hyper de tendresse et de rigolade pure. Toi, comment tu l'as dirigé? Est-ce que justement, on imagine que ce mec, même si c'est le type qui joue dans le coup près, on imagine quand même que c'est une bombe de rire, quoi. Comment est-ce que tu l'as dirigé? Est-ce que c'était des décisions, des trucs très précis, ou est-ce que c'était juste un mood que tu lui donnais?
Ce qui est assez rigolo, c'est que le personnage est assez éloigné de ce qu'il est dans la vie. Et j'ai envie de dire tant mieux pour lui. Mais par exemple, il est pas du tout nostalgique, José. C'est pas un gars qui va te parler du passé. Il t'a dit, ah, tu sais, à l'époque, avec Antoine Decaune, il est pas du tout comme ça. Alors que ce perso l'est maladivement, j'ai l'impression. Et pareil, c'est quelqu'un de, il vient d'Espagne, il est très tactile, quoi. Très dans l'amour, très, mon flow, à chaque fois que je le croise, et vas-y, je te tape sur l'épaule, et je te chope et trucs. Et du coup, moi, je le retenais beaucoup de ça. C'est pas tant dans la comédie. Il est très à l'écoute de la comédie. Il faisait vraiment confiance au texte. Donc, faut pas croire que parce que c'est José Garcia, d'un coup, il arrive et il part en impro sur des trucs. Pas du tout. Il était assez, enfin, il était très respectueux du texte. Des fois, il trouvait des petits trucs avec les enfants. En fait, il s'amusait beaucoup. Lily Aubry, Adrien Olmé et José Garcia dans leurs scènes tous les trois. Des fois, vu qu'on tournait, c'est beaucoup des scènes de nuit, c'est beaucoup, et puis ils passaient beaucoup de temps ensemble sur le tournage. Donc des fois, ils s'amusaient un peu à les vanner. On a deux, trois rires qui sont des vrais rires des acteurs dans le film. Mais sinon, il était très militaire, moi, souvent je dis sur José, parce que je suis cool, mais je suis pas tendre sur les, je fais une ou deux prises, et puis souvent, à partir de la troisième, je dis, à chaque fois, je préviens avant, hein, parce que je suis pas une ordure. Je dis, OK, sur cette prise, est-ce que tu m'autorises à te reprendre sur une phrase, de temps en temps quand je le sens, et ils adoraient ça, Charlotte et José. Il y a des comédiens qui pourraient très bien dire bah non mon gars, je suis dans mon truc, je vais perdre mon texte, tu vas me niquer mon mood, etc. Eux étaient pas comme ça, et José, ça l'amusait beaucoup. Et des fois sur des scènes pas faciles, la scène de grosse engueulade chez le grand-père, vraiment il est dans une tension, il est dans un truc, il a des 2-3 pages de texte, et je fais ouais José, sur celle-là un tout petit peu pour s'énerver, retiens un peu plus, ok, et il se remettait et tout, et c'est pas simple quoi. Donc ouais, ça a été, c'était, si je devais vraiment, je l'ai un peu frustré en fait, José, sur les câlins, le côté tactile, le côté, mais il avait tout de suite trouvé le bon mot. Il dit que son perso, c'est Don Quichotte quoi, c'est ça, il cherche un truc qui est impossible à avoir, mais il y va avec panache, etc. Et un des mots qui me vient en tête quand on parle de José Garcia, c'est le panache. Donc ça, c'était le truc où je savais que c'est inné. Je sais que dès qu'il arrive dans une pièce, on dit ouais allez c'est cool, c'est José, tu vois. Mais de temps en temps, pour le perso, j'avais besoin d'aller plus loin.
Tu parlais du casting, il y a aussi, donc t'as effectivement tes acteurs principaux, mais t'as aussi une galerie de personnages secondaires quand même assez dingue, et surtout une galerie de personnages secondaires avec chacun leurs propres univers, qui sont aussi des auteurs et des auteurs de comédie. Du coup, je voulais savoir, en tant que, quand t'es metteur en scène, comment t'arrives déjà à composer ces personnages? C'est-à-dire, déjà à faire ton casting en te disant, tiens, je vais mettre lui dans ce sketch, lui dans ce sketch. Mais aussi à, à les diriger. Est-ce que c'est aussi un travail de personnage avec eux, justement, parce qu'ils sont auteurs aussi? Ou au contraire, c'est moi le chef sur ce coup, et tu me suis?
Non, ça, là, c'est, je suis l'inverse de ça. non, je trouve que justement, c'est ça qui est super dans faire des films, quoi. C'est que, t'es pas le chef, quoi.
Non, mais c'est
pour répondre, justement, peut-être des gens se disent ça. Et vraiment pas du tout, quoi. Moi, c'est pas ça qui m'amuse. C'est vraiment le mot collaboration qui me fait kiffer là-dedans, quoi. C'est pour ça que moi, j'ai pas voulu signer un film d'eux. Parce que je trouve ça complètement con. C'est genre, on est 150, 200 sur un plateau. C'est pas mon film. Je l'ai écrit, réalisé. C'est déjà énorme. Pas besoin qu'on dise que c'est mon film. Donc oui, pour répondre à ta question, effectivement, c'est des auteurs, tous. Mais c'est même le cas de Luis Rego. C'est le cas de, c'est tous des auteurs. Et moi, avant de me voir en tant que metteur en scène, je me vois en tant que fan de ces gens, mais de tous. Ça va de Adrien Méniel à Luis Rego, en passant par Charlotte Gainsbourg, Sophie-Marie Laroui, Lies Salem, qui est exceptionnel dans le film aussi. Moi, je suis fan de ces gens. Donc, en fait, j'arrive avec un texte, et je dis, viens, on fait des lectures, et aux lectures, on voit s'il y a des idées, on ping-pong. Moi, je viens beaucoup de réunions d'écriture, quand je faisais La Flamme et le Flambeau, on était autour d'une table et on ping-pongait sur des idées, Golden, pareil. Donc, moi, il y a un truc de, voilà le texte, amuse-toi. C'est écrit pour eux, quand même, pour qu'ils sentent le truc. C'est pas juste, j'ai écrit un truc, vas-y, fais ça en ce que t'en veux.
Tu les as quand même en tête.
Ah, mais c'est très écrit, même, en vrai. Enfin, moi, l'idée, c'est que si on tournait ce qui est écrit, je serais heureux. Donc, c'est très écrit, mais par contre, on se fait des répètes, et comme ça, je suis pas fermé à des idées bien meilleures que les miennes qui pourraient venir de ces comédiens-là. Et c'est le cas dans toutes les scènes, il y a une ou deux idées qui viennent à chaque fois du comédien. Par exemple, Adrien Méniel, quand il est dans le resto, c'est des trucs, on peut pas écrire. Quand il dit bon, je reviens tout à l'heure et qu'il fait des petits trucs comme ça sur la table, c'est un truc de jeu, on le fait, machin, et je me marre quand il le fait. Et quand je me marre, c'est un bon indicateur de normalement c'est marrant, quoi. Donc, Sophie-Marie Laroui, pareil, j'écris une chauffeuse de bus, j'écris ça pour elle, mais je sais qu'elle va mettre toute l'Alsace dans ce personnage, qu'elle va pouvoir le pousser, etc. Et puis vraiment, c'est un ping-pong, c'est-à-dire que même moi, je trouve des vannes en jouant avec eux, quoi. Donc c'est très ludique, c'est très marrant à faire. Donc, après, les scènes sont écrites, et puis c'est arrivé une ou deux fois, quand le comédien est pas dispo ou c'est pas possible pour ce rôle-là, je change le personnage, quoi. Je lui donne un autre tempérament, autre chose qui collerait avec le comédien ou la comédienne à qui je vais le proposer. C'est une phrase de Judd Apatow, qui est mon maître absolu, mais qui est même Enfin voilà, il parle beaucoup de comment il voit la comédie. Et moi, j'ai vraiment fait mille classes sur ce film, sur ce que racontait Judd Apatow. Il disait, des fois, je lis des scénars de comédie et je vois Serveur 1 qui dit « Vous voulez du vin ?» point d'interrogation. Et après, il fait « J'en reviens pour l'addition. » Et il ne comprend pas pourquoi en comédie, il n'y a pas cette générosité de dire « Mais dites que c'est un serveur dépressif ou colérique ou je sais pas, n'importe quoi. » Et d'un coup, ça va rapporter une lumière de comédie. Ça va et trouver le truc qui impacte bien vos personnages principaux, etc. Et je fais « Mais bien sûr, évidemment, quoi. » Et donc, moi, je me suis... casser la tête à ce que ce soit ça dans tous les dans toutes les scènes avec ces personnages là ces petits sketchs. Pour moi, c'est pas du tout un gros rôle, mon sketch, c'est des scènes, hein, ça va pas vous sortir du film, mais j'aime bien quand on sort d'une séance et qu'on se dise ah, il y a la scène du caricaturiste, ah, il y a la scène du resto, il y a la scène du parking. C'est ce que j'aime quand je sors d'un film de Will Ferrell ou de la bande à Fifi ou du Splendide, ou voilà, je trouve que ces gens-là ont tous ce point, ils font trois cinémas complètement différents mais tous ont le point commun de ils pensent la scène pour la scène dans un grand tout. Et voilà, moi j'ai essayé de faire ça à mon humble niveau.
Et t'as une manière assez particulière de filmer ta région, celle que l'on voit dans le film, une France dans laquelle peut-être beaucoup n'ont grandi, une France des zones industrielles, des McDo sur un parking à côté d'un Jiffy, et entre la Foire Fouille et Gosport, bref, pour citer un maximum de marques bien sûr. Oui. Y a presque un petit côté Spielberg, moi je trouve, dans certaines façons de filmer. Oh, wow. Calmons-nous.
Calmos.
Non, mais je pense à la scène du parking. Je pense à la scène du parking. Je ne dis pas que c'est aussi bien que Spielberg, mais je ne dis pas le contraire non plus. Donc tu fais ce que tu veux avec cette information.
Prends tout.
Voilà. Mais bref, ces décors-là sont presque des personnages à part entière du film. Comment on traite ces décors comme des personnages pour donner cette toile de fond? Alors soit cette toile de fond, soit ce rôle de personnage à cette France-là, à ces décors-là, dans la France dans laquelle t'as grandi.
Bah, c'est un peu ce que tu disais tout à l'heure, c'est ce truc de mélanger influence ciné et influence personnelle. C'est des décors dans lesquels j'ai grandi, dans lesquels j'ai traîné, dans lesquels je me faisais chier surtout. Je m'ennuyais beaucoup et je traînais dans les zones commerçantes. Voilà, les trucs avec les caddies, je les fais avec des potes pendant qu'il y en avait deux qui étaient bourrés sur le petit rebord là pour pas que les voitures traversent. Voilà, c'est les endroits où on passait notre life et en journée on y allait. On allait dans les DVD de l'espace culturel Leclerc pour voir ce qu'on allait télécharger illégalement le soir. Et voilà, c'était ça nos lives, quoi. Et je me suis toujours dit, mais ces endroits-là, ils sont représentés au cinéma, mais c'est souvent dans un cinéma social, dans un cinéma pas avec ma culture qui est effectivement plus américaine, où je trouve que lorsqu'ils filment, les Américains, quand ils filment une station Texaco ou un diner, bah, d'un coup, ça pète. Alors que quand tu vas aux States, c'est pas si ouf. C'est devenu ouf parce qu'on s'est tapé 100 ans de cinéma américain où c'était bien filmé. Mais en vrai, une station essence aux États-Unis, ça reste une station essence. Et je me disais, ah, moi, j'aimerais bien, parce qu'il y a un des grands cinéastes qui filme très bien les zones industrielles. Je pense à Caverne des Lépines, qui sont deux gars dont je suis fan du travail. Mais eux, ils ont un truc beaucoup plus sec, quoi. Ils ont pas, je pense, ils sont pas très influencés cinéma américain, etc., etc. Et moi, j'avais envie de les filmer avec des ralentis, des travelling. Et un exemple tout con, par exemple, vu que c'est filmé de nuit, moi, je voulais mettre des néons bleus là où on range les caddies. Alors, quand tu regardes le film, tu les vois pas, ces néons bleus. Mais, parce que t'es dans l'univers du truc. Mais en vrai, ça permet d'iconiser, ça permet de mettre de la lumière. Parce que moi, quand la nuit, je traînais dans ces endroits-là, il y avait un côté Las Vegas, voilà, Las Vegas de zone commerçante, parce qu'il y avait des néons de partout, du jaune, du bleu, du rouge. Voilà. Et quand il y a plus par terre, ça, il y avait un reflet, etc.
Le parking au début de Retour à le futur, quoi.
Ouais, il y a un peu de ça. Oui, il y a un petit peu de ça. Ouais, c'est des choses, en tout cas, qui me parle beaucoup, et j'avais envie de, vu que encore une fois, sans trop en dire, mais c'est un voyage qui va un peu de mieux en mieux. Au début, c'est très, voilà, je filme très large, voilà, on voit des bâtiments, un HLM, des choses comme ça, et puis c'est vrai que quand ça va un peu mieux entre certains personnages, bah, dans ce cas-là, on se permet un petit peu plus, on en fait un peu plus niveau lumière, on se permet presque des clips musicaux à des endroits. Et voilà, et ça, c'était quelque chose auquel je tenais dans ma narration.
Tu parlais, Alexis parlait de Spielberg, et toi, tu l'as évoqué tout à l'heure, il y a du Patrice Lecomte aussi. C'est-à-dire, il y a le côté la loose. La France de la loose, c'est le mari de la coiffeuse, c'est tandem, vachement. Mais des losers magnifiques, quoi. C'est-à-dire, vraiment... et t'as pas peur d'aller sur ce terrain-là, je trouve. Est-ce que ça, c'était vraiment aussi une de tes inspirations?
Ah oui, à fond. Pour la petite histoire, Patrice Lecomte devait faire un caméo dans le film. Parce que j'aime bien quand il y a des caméos de réal dans les films. Et bah, dans la scène du restaurant, il y a Adrien Méniel qui dit une réplique à un moment. et il se prend un ta gueule, voilà, j'en dis pas plus. Et ça devait être Patrice Lecomte qui disait cette réplique, qui était juste un client du resto. Mais c'était à Dijon, c'était pas pratique, il pouvait pas. Et puis vu, on n'est pas un très gros budget, donc on pouvait pas trop adapter le truc pour une réplique. Mais voilà, j'ai envoyé une lettre, il m'a répondu très gentiment. J'espère qu'il verra le film, parce qu'effectivement, oui, ce Loser magnifique est vraiment encore une fois où on ne cache pas les défauts. Je vous invite vraiment à regarder Tandem, qui est un film, enfin qui est un de mes films préférés. Et le personnage de Jean Rochefort dans Tandem, il a énormément de défauts, quoi. C'est vraiment, mais je trouve que c'est ce qui le rend humain. C'est ce qu'ils font aussi beaucoup les humains. Et c'est dans le pathétique qu'on le rachète. Et ça, c'est quelque chose qui me parle beaucoup, parce que je pense que c'est aussi ça que les adolescents font avec leurs parents souvent. C'est-à-dire qu'au début, c'est des dieux. Puis tu te dis, c'est des cons, ils ne comprennent pas, c'est des merdes. Et après, tu te dis, bon, ils font ce qu'ils peuvent, en fait. Ils sont comme moi, parce que toi aussi, tu deviens adulte et tu te dis, mais en fait, je suis pas mieux. Et j'ai beau critiquer mon père et ma mère sur tel truc, bah ça y est, j'ai 23 ans et je refais déjà tel truc, alors que je me trouvais tellement mieux. Et ça, j'aime bien sentir ça au cinéma. J'aime bien être ambivalent sur les personnages. Et ça, pour le coup, c'est très cinéma français. Je citais Jaoui Bakri, c'est les dieux de ça, quand ils font le goût des autres, le personnage de Bakri, mais tu passes par toutes les émotions avec ce personnage. Et ça, j'adore, parce que je fais pas un cinéma avec des effets spéciaux et des vers géants qui sortent du sable. Donc du coup, les seuls petits...
Tu parles d'Avatar.
Ouais, bien sûr. Ah oui, c'est vrai que je suis dans un podcast cinéphile, pardon.
J'adore Cinoche.
C'est important pour moi que le mini côté grand 8, il se fasse là-dedans, quoi. Il se fasse dans les émotions, ton ressenti vis-à-vis des personnages, et ce que je disais, des fois des blagues, des fois pas des blagues, etc., etc. Donc, Patrice Lecomte, énorme influence, parce que il fait ce truc que moi j'adore, et qui est aussi le truc d'Apato et de Jaoui Bakri et tout, c'est, James L. Brooks le fait très bien également, c'est que c'est des vrais gens, mais ils vivent des trucs un peu extraordinaires, des fois ils parlent un peu en punchline. Il y a des situations un peu ubuesques, mais bizarrement, ça ressemble à la vie. Et moi, ce que j'aime au cinéma, c'est quand c'est la vie plus, quoi. C'est ça que je kiffe au cinéma. C'est quand ça fait écho à ma propre existence, mais que c'est plus beau, plus drôle, plus émouvant. Voilà. Et quand je sors de chez moi, je fais, putain, bah, c'est cool la life quand même. Parce que moi, j'ai pas beaucoup voyagé, j'ai pas beaucoup sorti de chez moi. Et tous ces films-là, ils ont fait ça dans ma vie. Et donc, je me dis, bah, à mon tout petit niveau, si j'arrive un tout petit peu à faire ça chez certaines personnes, bah, le pari, il est giga gagné, quoi.
Et justement, tu nous disais que c'était ton premier, on l'a vu, ton premier long métrage en tant que réalisateur. Qu'est-ce que tu retiens derrière de ton travail en tant que scénariste ? Est-ce que, après avoir réalisé un film avec toutes les contraintes que ça peut susciter, évidemment, tu te dis que peut-être derrière, t'écrirais différemment, ou pour anticiper peut-être des problèmes de tournage ou des contraintes que t'aurais rencontrées sur celui-ci ? Est-ce que tu vois ton métier de scénariste différemment maintenant ?
Non, je pense pas, parce que je pense qu'il faut vraiment discerner les deux. Je pense que c'est ça qui est chouette, d'ailleurs. Je suis ravi d'avoir écrit et réalisé ce film seul, parce que c'était une histoire qui était importante pour moi et que je me voyais pas partager l'écriture, et je me voyais pas donner ça, encore moins donner ça à quelqu'un d'autre. Mais c'est important quand t'écris d'être à ta place de scénariste. Moi, c'est toujours ce que je demande quand je coécris avec des gens. Je fais, ok, c'est qui le chef ? Parce que moi, je dois des comptes au chef. Donc, je peux faire mon max en disant... moi, je pense que c'est ça l'histoire, et je pense que tel personnage doit passer pour ça et me défendre. Mais si le metteur en scène en face me dit, ouais, mais moi, je vois ça plus comme ça, ça peut être un débat qui prend toute la journée. On peut s'écharper la gueule toute la journée. Mais à 18h, à l'heure où je dois aller chercher ma fille à la crèche, je vais dire, on fait ce que t'as décidé. Parce que c'est sa vision qui prime. C'est le metteur en scène qui va être sur le plateau. Si lui ne croit pas en une scène, ça ne sert à rien. Même si toi, en tant que scénariste, tu penses que ta scène, elle est mille fois mieux que ce qu'il avait en tête, il va pas la réaliser comme il l'a en tête, donc elle va foirer, il y a 9 chances sur 10 qu'elle soit de la merde. Donc voilà, moi j'essaie de séparer les deux casquettes. Voilà, après il y a toujours cette frustration de scénariste, encore plus quand tu réalises à côté, de te dire bah moi j'aurais pas fait comme ça ou des choses comme ci. Mais voilà, ça fait partie du métier. Et non, honnêtement, non, en plus, disons que pour ce genre de film là qui mélange ces choses comme ça, moi, j'ai toujours envie de les réaliser. C'est-à-dire que si on appelait demain pour coécrire une histoire d'amitié, je dis n'importe quoi, mais dans ce ton-là, je pense que je dirais non. Je dirais, bah, moi, ces histoires-là, je les écris moi dans mon coin et je les réalise. Et voilà. Moi, j'aime bien aller quand c'est des choses où je suis incapable de, voilà, je suis incapable de tourner une comédie dans la jungle comme on fait Ludovic Kolbojustin et Malik Bentala sur Jack Mimoun. Je suis incapable de faire ce qu'a fait Sébastien Vanitschek sur Vermine. Je suis incapable de faire La Flamme parce que, je peux pas gérer 95 comédiens qui vont tous improviser pendant une journée. Donc voilà, je suis trop content de travailler en tant que scénariste parce que c'est que des génies avec qui j'ai bossé. Mais voilà, en tant que réal, je sais ce en quoi je peux être bon en mise en scène et voilà, et sur quelles histoires j'ai envie d'aller.
Et justement, du coup, tu retiens quoi en tant que réalisateur de cette première réalisation, même peut-être d'autres erreurs que tu commettras pas sur le second, des choses au contraire que tu referas de la même manière dans le prochain. Qu'est-ce que tu, ouais, quel conseil ou tu te donnerais en fait à ton futur réalisateur d'un second film?
Le conseil, ce serait, franchement, je sais pas. En fait, j'avoue que le film, vu qu'il est pas sorti encore, même si on a fait des avant-premières, non, mais c'est vrai. Mais parce que j'écris en ce moment un potentiel second long métrage que j'aimerais réaliser, et c'est la problématique que je me pose en ce moment où je me dis, mais j'y arrive pas parce que j'ai besoin que ce truc-là sorte. J'ai besoin que les gens le voient, j'ai besoin que les gens se l'approprient et que j'entende ce qu'ils ont aimé, ce qu'ils ont moins aimé. Et moi, ça me permettra d'avoir du recul sur mon travail. Et là, t'imagines, moi, ça fait quasi. 3 ans, vraiment, enfin, en tout cas, ça fait 1 an non-stop depuis le tournage que je suis que sur ce film. Je fais des choses à côté, mais où j'ai la tête à fond dans le guidon. Donc, c'est trop tôt pour commencer à me dire, OK, qu'est-ce que je ferais différemment? Non, je sais ce que je ferais pareil, par contre. C'est-à-dire que je continuerai à bosser avec tous ces générations de comédiens que je trouve tellement drôles, ça, c'est sûr. Je garderai, je pense, à 99% la même équipe, parce que ça s'est vraiment bien passé. Je serais très malheureux de pas avoir le même directeur photo, le même preneur son, le même monteur, Quentin Eden, un génie du montage, voilà, avec qui j'ai travaillé déjà depuis des années et avec qui toute la post-production a été si simple. Donc non, là comme ça, je saurais pas encore trop dire. Mais j'ai envie de continuer dans cette voie-là. C'est peut-être, à la limite, c'est vraiment ça ce que je retiens, c'est que c'est trop bien de réaliser et que là j'ai beaucoup attendu avant de réaliser, mais pas forcément à cause de, enfin voilà, pour 1000 raisons, et que je sais que là les prochains projets, ça va être plus difficile pour moi d'accepter plein de choses en écriture parce que j'ai très envie de réaliser maintenant. Là, j'ai vite envie de m'y remettre, quoi. Donc voilà, pendant Nous les Leroy, j'ai fait La Flamme, Le Flambeau, Jack Mimoun, Vermine. Bon, sur le prochain, je fais un autre film avec Vadim Vanitschek, parce que tant qu'il est là, je vais me greffer à sa gueule, parce que c'est vraiment un génie. Mais j'aurais plus de mal à dire oui. Je refuse pas mal de choses, parce que j'ai vite envie de me remettre à la réal, parce que écrire, c'est tellement solitaire, et réaliser, c'est tellement travailler avec des humains, que c'est trop cool de faire les deux, quoi.
Et alors, on va passer aux questions du public dans un instant. Juste une dernière question. Tu parlais de Sébastien Vanitschek. Alors, je ne sais pas si c'est le prochain film que tu vas écrire, mais en tout cas, on sait que tu vas travailler sur un potentiel film Evil Dead. On imagine que tout est assez cadenassé sur ce que tu peux nous dire, mais en tout cas, ou pas d'ailleurs, hein, libre à toi de casser
autant
tous les
vous
contrats.
Dire autant vous dire que c'est cadenassé, oui.
Il y a 3 tireurs dans cette salle qui sont prêts à intervenir à tout moment. Mais donc voilà, tu vas travailler au scénario d'un Evil Dead réalisé par Sébastien Vanitschek.
Et co-écrit
comme Vermine, ouais. D'ailleurs. Qu'est-ce que tu peux nous dire sur ce projet? Alors, j'imagine pas grand-chose, mais plutôt sur la réaction et sur le fait que tu sois arrivé sur un projet de cette ampleur. On connaît ta passion pour Sam Raimi. Comment ça s'est passé, tout ça, ce projet assez fou, au final, qui s'apprête à voir le jour?
C'est surtout la folle histoire de Sébastien Vanitschek, en fait. C'est-à-dire que, donc, on fait Vermine. Mais ça, c'est, pour le coup, ça, j'ai vraiment tiré une grande leçon de Vermine, parce que quand Sébastien vient me voir, je suis censé être sur le flambeau à 100%, la suite de La Flamme. Donc, j'ai adoré faire La Flamme, je m'entends trop bien avec Jonathan et tout. Et il y a Sébastien qui vient me voir en me disant, je le connais pas à ce moment-là. C'est juste, on a un pote en commun qui est Jérôme Niel, mais je l'ai jamais rencontré, j'ai vu ses cours, mais je le connais pas. Et il me dit, voilà, moi, j'aimerais travailler avec toi. Je fais, mais tu sais que moi, c'est beaucoup de la comédie. Il dit, ouais, mais justement, j'adore les persos que t'as fait. J'adore ça. Et j'ai envie de faire un film popcorn, justement. Je veux pas faire un film d'horreur autorisant, entre guillemets. Je veux faire un vrai truc. Et il me pitch le film dans les grandes lignes qui étaient déjà les araignées, le HLM, la bande de survivants. Et du coup, je fais, en fait, non, je vais faire ça. Je vais pas faire le flambeau. Je vais faire ça. Et donc j'appelle Jonathan, je lui dis désolé, Jonathan Cohen. Il dit pas de soucis, gars, aucun problème. Je pense qu'il y avait
c'était
un petit.
C'était une imitation,
ça ? Non.
D'accord.
Non, c'est juste qu'il y a beaucoup de gars dans ces phrases.
Bien sûr.
Et voilà. Et au final, j'ai quand même écrit sur le flambeau des mois après parce qu'ils sont venus me chercher pour refaire des passes sur le script. Mais le gros du gros, c'était quand même les autres auteurs qui ont travaillé dessus. Et j'ai adoré cette expérience avec Sébastien, en fait. C'était génial parce qu'on se marchait pas dessus. J'ai fait en grande partie ce qu'il a demandé, ce pourquoi il est venu me chercher. Il y a beaucoup, on a toujours peur de se marcher dessus, lui et moi. Donc j'adore notre relation. Elle est très
pudique, et en même temps on parle beaucoup de nos vies, et en même temps on a voilà une passion commune pour le cinéma d'horreur et le cinéma de genre même plus largement. Et donc voilà, on fait Vermine. Pardon, je me suis un peu emporté dans les.
On a pris quelques petits détours.
Ouais, pardon, mais c'est pour t'expliquer pourquoi j'y vais. Mais donc on fait Vermine. Vermine fonctionne bien en France, mais il fonctionne encore plus à l'international. On a des prix dans pas mal de festivals. Je dis on, mais vraiment c'est le travail beaucoup de Sébastien. Mais disons que le film qu'on a écrit ensemble a beaucoup de prix, dont un aux États-Unis. Il est diffusé au Fantastic Fest d'Austin. Et là, il y a énormément de producteurs et de distributeurs qui assistent à ces séances, d'autant plus que ce film-là a un prix, donc tout le monde veut un peu le voir. Sébastien Vanitschek fait le tour des popotes à Los Angeles. Il rencontre tout le monde, mais je vous le dis, je peux pas vous dire parce que ce serait à lui de vous le raconter, mais ça va de un studio de super-héros, j'en dis pas plus, jusqu'à voilà, enfin vraiment tous les producteurs de cinéma d'horreur, mais pas que d'horreur, ça qui est assez fou. Mais je pense que tous les metteurs en scène qui font de l'horreur en France ont été approchés de la même manière à chaque fois. Et il y a Ghost House Pictures, donc la boîte de production de Sam Raimi, qui est intéressée et qui lui, je crois, lui dit juste, est-ce que voilà, t'as des idées, des envies, et il match bien avec eux. Et au bout d'un moment, ça vient de eux qui disent « Mais est-ce que ça te dirait de faire un Evil Dead ?» Et le prochain, vu qu'il venait de sortir celui de Lee Cronin, Evil Dead Rise, et il m'en parle, il me dit « Est-ce que ça te dit ?» Je fais « Bah, c'est un de mes films préférés. Sam Raimi, c'est pour moi peut-être l'un des derniers plus grands réalisateurs. Enfin, pour moi, c'est au niveau d'Hitchcock, Spielberg. Enfin, c'est vraiment un très, très grand réalisateur. » C'est un style inimitable. C'est un mec qui est tellement fort que personne n'a réussi à le copier. Quoi. Il a tout simplement remis au goût du jour le film de super-héros. On filmait pas les super-héros comme ça. Enfin, c'est un monstre, quoi. Tu vois. Donc moi je dis bah oui, évidemment. Et en plus, ce qui est chouette, c'est que moi je suis un giga fan d'Evil Dead, mais c'est moins. C'est-à-dire qu'il aime beaucoup. Hein. C'est des films qu'il adore. Mais c'est pas le geekos que je suis à dire, eh ben non, parce que le Necronomicon n'a pas le même nom dans le 2 et dans le 1. Et donc, bon, bref. Et donc
on a l'image.
Ouais, voilà. Et dans notre collaboration, du coup, alors là, on est vraiment au tout début, ça, je peux vous dire ça. Voilà, on a fait un traitement qui a été lu. Voilà, on est dans ces échanges-là. Je pense que ça va se faire. Moi, je suis toujours très prudent. Bah, je suis anxieux, donc j'ai l'impression que tout peut se péter la gueule tous les jours. Mais ceci étant dit, même si ça se pétait la gueule, évidemment que je serais déçu. Mais là, l'expérience, elle est déjà dingue. On fait des zooms avec le décalage horaire à 1h30 du mat avec Sam Raimi. C'est-à-dire que je couche ma fille, je lui lis une histoire, je lui lis Totoro, je la couche. Ensuite, je me mets derrière un ordi, il y a Sam Raimi, et on parle de comment éviscérer des gens de la pire façon dans un film. Enfin, pendant ce temps-là, je sors une comédie familiale avec José Garcia et Charlotte Gainsbourg. Donc, ma vie n'a aucun sens. Et c'est trop agréable, quoi, tu vois. Moi, je suis quelqu'un de très... dans la vie perso, voilà, je suis très rangé des voitures. Je suis pas très... Je sors pas, je fais rien, je suis vraiment chiant. Mais du coup, dans le travail, c'est n'importe quoi. Et ça, c'est très plaisant, quoi. Donc, je prends beaucoup de plaisir à faire ça. On s'entend beaucoup avec Sébastien. Sébastien est quelqu'un d'assez intransigeant. C'est-à-dire que c'est pas un gars qui a comment dirais-je... Les sirènes d'Hollywood, c'est pas ça qu'il est venu chercher, quoi. C'est-à-dire qu'il y a Sam Raimi, qui est un vrai metteur en scène, qui est un vrai scénariste et qui est un vrai producteur, lui et toute son équipe. Et je crois qu'on est très respectés, en tout cas pour le moment. On en reparle peut-être dans un an, mais pour le moment, ça se passe extrêmement bien et c'est un bonheur. Voilà.
On va maintenant passer aux questions du public. Pour poser vos questions, levez la main et des micros tourneront. Oui, monsieur, premier ou deuxième rang.
Bonsoir, bravo pour le film à toi et l'équipe. Ça envoie du sax.
Je prends.
Et en fait, il y a une question qui a été soulevée pendant l'interview que je trouve très intéressante, c'est au niveau de la nostalgie et de comment elle est traitée dans le film, parce que c'est vrai que au niveau culturel, on est beaucoup dans une époque de la nostalgie, voire même d'une époque qu'on n'a pas connue avec certaines séries que je sais pas si je peux citer.
Bien sûr.
Bah, Stranger Things, par exemple. C'est voilà, vrai que
fallait pas le faire, tant pis. Toi.
Et du coup, c'est vrai que est-ce que pour toi c'était important de le traiter de cette manière, un côté bah on y est attaché, mais en même temps, bah, faut rester quand même attaché à la réalité présente.
Ouais, tout à fait. Bah, moi, je suis quelqu'un de profondément nostalgique. Moi, je regarde Stranger Things, par exemple. Tu vois, j'ai un t-shirt là actuellement d'un groupe de métal que j'écoutais quand j'avais 14 ans. Enfin, je suis très attaché à ça. Pourtant, je n'aime pas vraiment ce trait de ma personnalité parce que j'ai l'impression, voilà, ce que vous dites en fait, ce truc de, je suis faut aller de l'avant, quoi. Il y a des trucs cool en musique, il y a des trucs cool en ciné. Je suis pas du tout un truc de c'était mieux avant, loin de là. Mais je me tourne beaucoup vers les choses. Je suis très doudou, quoi. Je suis très truc culturel, un peu doudou.
Réconfort, ouais.
Ouais, voilà, c'est ça. J'aime bien. Là, tu vois, j'ai un enfant et très vite, je me suis dit, j'ai hâte de lui montrer Gremlins, j'ai hâte de lui montrer Star Wars. Et on s'en bat les couilles, en fait. Peut-être, c'est elle qui décidera, peut-être, tu vois. Donc voilà, c'est un truc, un trait de ma personnalité dont je ne suis pas le plus fou. Donc du coup, je trouvais ça marrant de le traiter, effectivement. Mais je l'avais déjà un peu traité. J'avais fait un court-métrage qui s'appelait Flashback Museum, qui parlait un peu de ce truc-là. Je pense qu'on a tendance, enfin, c'est ça un peu aussi la nostalgie, c'est de glorifier le passé, alors qu'en vrai de vrai, d'une, c'était pas si ouf, et de deux, quand il retourne, ça a pris dans la gueule, quoi. C'est ça le concept. Et bah, c'est un peu tout ça le début du film, quoi. C'est ce truc de, il retourne dans des endroits du passé en disant, regardez comme c'est joli. Sauf qu'on a tagué des conneries sur le banc, sauf que le resto, il est plus aussi classe, sauf que, bah oui, il y a des nouveaux habitants qui ont changé la déco, etc., etc. Donc, mais l'idée même du film me venait de ça, moi. C'est-à-dire que quand j'étais jeune adulte, après mes années étudiantes, je suis passé en bagnole devant le HLM où j'ai fait mes études. Et je me suis dit, et je, en fait, mon appart, ma chambre étudiante de ce HLM donnait sur la rue. Donc, je voyais juste la fenêtre et viteuf un rideau. Et je me suis dit, putain, j'ai trop envie d'y aller et de voir à quoi ça ressemble, quoi. Et genre, je me gare, je descends de ma voiture, il y a un digicode, il a changé. Donc, très vite, mon périple s'arrête ici. Et je retourne dans ma voiture un peu penaud et je me dis, mais qu'est-ce que tu croyais que ça allait être, de toute façon? Enfin, tu vivais dans 18 mètres carrés, donc il n'a pas réagencé l'architecture de l'appart. Enfin, ça a sûrement pas bougé. Et après, tu vas voir, le gars, il va juste, ou la meuf va dire, t'es chelou, gars. Il va regarder, tu vas regarder, tu vas faire, oui, bah, la kitchenette a pas bougé. Bon, bah, il y a plus le poster de Kurt Cobain, mais il y a, un tableau de New York en noir et blanc avec juste le taxi jaune. J'en sais rien, tu vois. Mais, en tout cas, ce qui est sûr, c'est que j'allais être déçu. Et ça, je me suis dit, ah, c'est un bon point de départ. Donc voilà.
Et ça en fait une très bonne scène du film.
Ouais, bah, oui, pareil. Du coup, je l'ai mis quasiment tel quel dans le film parce que ça me faisait marrer ce truc.
Une autre question, oui, vous d'abord.
Merci. Déjà, j'ai adoré le film, mais je tiens à dire que c'est un film de youtubeur.
bien sûr. Et, comme Vermine, d'ailleurs, il y a Jérôme Niel. Donc,
exactement. Ouais. Et à côté du Floodcast, on se sent tout petit. Mais dans le film, il y a beaucoup de petits bonbons, de petits trucs cachés dans le fond. Et dans la scène du resto, j'ai l'impression qu'il y a une femme qui prend son café en riant. Mais je suis vraiment pas sûr de moi. Du coup, je voulais savoir si je suis faux à l'allier ou si c'est un
attends,
truc.
Attends, par rapport à quoi? Qui prend son café en riant? C'est Stéphane Echer?
Ouais.
Ah, mais non, pas du tout.
Okay, ça marche très bien. C'était ma question.
Tu crois que c'est pour le film? Stéphane Echer? Ah non, il n'y a pas de ref à Stéphane Echer. Non.
Malheureusement, non. Certains diraient.
Et sûrement Stéphane Echer qui dirait, c'est con.
Le premier, lui.
Un peu de sa sème.
Un peu de sa sème.
Non. Mais ça aurait pu. J'aime beaucoup ce qu'il fait. J'avais proposé le rôle du grand-père à Alain Souchon. Ça, je peux le dire. Petite inside. Et il m'a répondu une très jolie lettre où il m'a dit, j'aurais été ravi, machin et tout. J'ai plus la lettre exacte, mais il a fait, malheureusement pour vous et pour moi, je suis un très mauvais comédien. Et je lui ai dit, bah, non. Et il m'a dit, non, mais ça ne demande pas une réponse, cette lettre. Prends le refus et avance. Je fais, ah oui, pardon.
Il n'y a pas eu le début d'un bel échange entre vous deux.
Non, pas du tout. Non, mais t'imagines, il m'a quand même répondu avec une lettre qui est encadrée dans mon bureau. J'ai une lettre d'Alain Souchon de refus. C'est presque encore plus classe que s'il avait accepté. Et c'est surtout ce qui fait qu'on a eu Louis Rego, qui était le choix juste après et qui est, je trouve, exceptionnel dans le film. Donc j'étais ravi.
C'était un kiff de gosse, ça, petit aparté, d'avoir
Louis Rego. Ouais. En fait, c'est rigolo. C'est une idée de directrice de casting. Ouais. Okay. Tu vois, Tatiana Vial, qui est aussi la femme qui a trouvé ces deux adolescents exceptionnels, Adrien et Lily. Alors, on a fait passer beaucoup, j'ai un peu ma part de responsabilité quand même, mais on a fait passer 80 ados et c'était avec elle. Et Louis Rego, c'était pas, bah, comme je dis, c'était pas ma première idée. Donc, Souchon dit non. Et moi, je suis un peu désemparé. J'ai pas trop d'idées. Et c'est elle qui me parle de Louis Rego et je fais, mais putain, ce serait exceptionnel, Louis Rego, mais ça fait longtemps que je l'ai pas vu dans un truc, etc. Elle me dit, bah, franchement, rencontre-le. Et la rencontre se passe trop bien. Et c'est, il y a une phrase que je croyais être un peu une excuse d'acteur qui veut pas faire des films, qui dit, les films doivent se faire avec les gens qui doivent oula. La phrase était mieux dite. Bah ouais, mais on enregistre le podcast à 6h du mat, faut le dire aussi.
Exactement.
Non, mais ouais, en gros, les films doivent se faire avec les personnes avec qui ils doivent se faire. Et à chaque fois, je disais, oui, c'est facile à dire quand tu ne veux pas faire un truc. Et en vérité, non, j'y crois beaucoup à cette phrase maintenant. Et aujourd'hui, honnêtement, c'est mille fois mieux avec Louis Rego que ça aurait été avec Alain Souchon, parce que Louis Rego, je sais pas, avec José Garcia, t'y crois tout de suite, c'est un truc assez évident. Et je suis trop content parce que j'ai plein de gens qui viennent me voir un peu une autre génération que les auteurs du Floodcast, faut bien l'avouer, mais qui en me disant mais je suis trop content de voir Luis Rego, ça fait longtemps qu'on l'avait pas vu au cinéma, et moi je suis ravi parce qu'effectivement je le trouve super dans le film, et il a été il a quelques scènes dans le film, mais sa scène la plus importante, il l'a tournée quand même à 1h30, 2h du mat, voilà, et pas un pet de, il a 80 ans, et pas un oubli de texte, pas une prise de mauvaise, franchement c'est un grand acteur et un mec super, donc c'était incroyable. Mais oui, pour répondre à ta question, moi j'étais pas un fan absolu, mais ça fait partie de mon enfance, quoi. C'est la Vengeance du Serpent à plumes, c'est effectivement les Bidas, c'est même, je vais dire un truc, c'est le tribunal des flagrants délits en vérité. Quand j'étais ado, j'avais une passion pour des proches. Et du coup, je matais tous les trucs des tribunaux, des flagrants délires, et j'étais fasciné des textes de Luis Rego. Donc ouais, non, au final, un bonheur.
Une autre question du public. Oui, vous là-haut. Ah non, vous là-haut d'abord, mais vous là-haut ensuite. Vous là-haut, puis vous là-haut.
Entendu. Je voulais savoir, vous avez dit tout à l'heure que la prépa était un enfer. Et je voulais savoir.
Était longue, pas un enfer, mais oui, okay. Était longue. Ouais, ouais.
Et savoir comment vous. Tout seul, mentalement, vous êtes préparé à réaliser votre premier film.
Face à la prépa un peu compliquée, c'est le truc de faire plusieurs choses en même temps. C'est-à-dire que quand on t'annonce une mauvaise nouvelle, je dis n'importe quoi, tel comédien le fera pas ou quoi que ce soit, bon, bah, t'as une réunion l'après-midi où tu dois écrire sur Vermine, donc bon, bah, t'y penses pas, quoi, t'es sur autre chose. Ça permet d'avancer, voilà, tout simplement. Après, comme j'ai dit, c'est pour ça que c'était pas juste pour la blague que je me suis permis de vous reprendre sur Un Enfer, parce que je sais que ça met du temps de faire un film, d'autant plus un premier. Moi, j'ai déjà la chance d'avoir un casting qui fait que j'ai eu un budget pas énorme, mais pas horrible, quoi. Et mon film va être vu par plein de gens aussi, tu vois. Ça, c'est quand même incroyable. Donc je respectais la chance que j'avais déjà de pouvoir avancer sur ces choses-là. Et après, c'est petit pas, quoi. Et on voit ce qui va se passer. Donc mentalement, c'est un peu dur des fois. T'es un peu énervé, t'es un peu frustré, mais t'as d'autres choses à côté. T'as une équipe aussi qui te dit t'inquiète, ça va le faire, et on continue comme ça.
Bonsoir. Déjà, merci. J'ai adoré le film.
Bah merci d'être venu. Merci.
En fait, j'avais une question. C'est quand on écrit un film qui paraît aussi personnel, à quel point est-ce qu'on s'autorise à mettre beaucoup d'éléments de la vie qu'on a vécue, et à quel point on s'autorise à la romancer justement? Et à en faire un film, en fait, avoir des arcs de perso, à quel point est-ce qu'on n'a pas l'impression de peut-être de déformer justement cette vie de famille pour en faire un film?
En fait, c'est presque le cheminement inverse. En vrai, moi, je vu que l'histoire n'existe pas, vu que ces personnages n'existent pas, je me sens assez bien d'inventer les trucs. Et après, je mets des choses personnelles dedans, mais je mets pas des choses, comment dirais-je? J'ai mis des choses qui me paraissaient, qui sont très personnelles. C'est un film très personnel, mais qui me paraissaient universel, quoi. C'est pas d'un coup le père pour aucune raison il a le même métier que mon père, d'ailleurs c'est pas le cas, il a pas le même métier, voilà, c'était que les choses où ça avait du sens, quoi. Et c'était plutôt dans les rapports où j'avais l'impression que, c'est ce que je disais tout à l'heure, moi j'ai une vie vraiment banale jusqu'à mes 20 ans, et mes relations avec mes parents, avec mon frère, avec, en vrai c'est la relation de tellement de gens. C'est aussi pour ça que le film s'appelle « Nous, les Leroys ». Les Leroys, c'est le nom le plus basique de la Terre. C'était aussi ça le but, quoi. C'est de dire, non, c'est... Moi, je m'appelle Bernard, donc c'est encore plus basique. C'est de dire, non, c'est le Français moyen qui fait ce qu'il peut en famille avec ses défauts, ses qualités. Donc voilà, j'ai la pudeur de plein de choses. Voilà, il y a plein de choses dans ma vie, des choses marrantes et des choses moins marrantes qui ne sont pas dans le film. J'ai mis dans le film ce qui me paraissait intéressant pour l'histoire et important pour la connexion avec le spectateur. Voilà.
D'autres questions? Oui, vous, premièrement.
Merci. Bonsoir, Florent. Merci, d'abord. On parle de avant, ton passé, ta famille, tes parents. Est-ce que ça vient de Charlotte? Parce que tu disais que Charlotte avait un peu aidé à construire le personnage vis-à-vis de la relation avec les enfants, le couple. Est-ce que tu penses que ça t'a permis à toi d'avoir des clés pour ton futur avec ta fille? Est-ce que tu as, toi aussi, comme elle, cette peur de, comme tu dis, les enfants qui quittent la maison? Est-ce que ça t'a permis de sortir un peu de ce... Enfin, moi-même, j'ai des enfants, je suis terrifiée. Du coup, c'est pour ça que je me pose la question, parce que ça me touche particulièrement. Et tu parles très souvent de ta fille, et du coup, on parle beaucoup de l'avant dans le film, mais pas de l'après, bizarrement. On dirait que c'est propre au personnage et pas à toi, finalement.
Ouais, ma fille est encore toute petite. Moi, elle a 2 ans, donc la question... Enfin, ça va, elle va pas partir tout de suite, j'espère. Mais oui, en vrai, je sais pas si ça va répondre à ta question, mais il y a beaucoup de... Dans le film, j'ai peur qu'il m'arrive ce qui se passe dans le film, ça c'est sûr. J'ai peur de... tu vois, il y a un truc où, par exemple, le père, tu sens qu'il a beaucoup amusé... Enfin, il a eu une relation très sur les blagues avec sa meuf. Il se marre beaucoup dans les répondeurs au début, et puis maintenant, il la fait plus rire. Bon, bah, autant te dire que c'est ma crainte quotidienne, tu vois. Et ça m'arrive d'ailleurs des fois. Des fois, je fais une vanne et je me prends un OK, point, sur par texto. Voilà, donc, oui, ça, c'est sûr que. Et je pense que c'est ça qui. Enfin, peut-être encore une fois, parce que je suis anxieux et etc. Mais moi, c'est même comme ça que je vois l'écriture. C'est un peu de vraie vie, un peu de référence et un peu de peur de ce qui pourrait m'arriver dans la vie. Et je l'exorcise dans un film. Charlotte, elle a surtout apporté. Sur une mère plutôt, en fait, vraiment avec cette relation, avec ce truc de, comment dirais-je, qu'est-ce qui ferait que elle quitterait un mari, etc. Mais Charlotte, elle parle pas de elle, et d'ailleurs José non plus, c'est vraiment des comédiens qui parlent du personnage, de la construction du personnage. Je suis même pas sûr qu'il y ait beaucoup d'eux dans les personnages, pour être tout à fait honnête. Peut-être, c'est leur popote interne, et moi justement j'aime bien que juste être devant un écran et subjugué par ce qu'ils font. Donc voilà, après le film, encore une fois, c'est vraiment le film d'un enfant qui regarde ses parents, effectivement. Je sais pas, j'aime bien parce que j'ai pu un peu aussi laisser le truc un peu macérer en moi et avoir un peu de recul. Et c'est un film qui, en fait, est bourré de compassion pour les parents, en vrai, hein, ce film. Mais c'est aussi pour ça que ma fille est née pendant la prépa. Et j'ai essayé de faire en sorte de pas être plus tendre avec le père parce que maintenant, j'étais papa, quoi. Je me suis dit, non, je compare absolument pas son cinéma au mien. C'est quelqu'un d'un grand talent et j'oserais pas, mais j'aime beaucoup ce que fait Xavier Dolan quand il parle des mères, par exemple, parce que je trouve qu'il y a un truc très dur, très cruel parfois. Enfin, c'est horrible, hein, les personnages des mères dans ces films, et en même temps tu sens l'amour d'un enfant, une compassion d'un enfant, un truc de, en même temps je l'aime quand elle fait de la merde aussi, etc. Et moi je me disais, bah moi, avec la comédie que je veux faire, qui est effectivement très éloignée de ce que fait Dolan, j'ai envie de ça, j'ai envie de ce truc où on dit non, ce que je disais un peu tout à l'heure, désolé je me répète, mais ne mettons pas sous le tapis les choses. Donc j'ai essayé de pas penser au fait d'être papa. J'ai juste mis ma fille dans une litière de chat. Et c'était déjà très bien au début du film. Et voilà. Mais par contre, c'est marrant. C'est ce que je disais la dernière fois. Je faisais un peu la vanne en avant-première, mais c'est la vérité. Moi, j'ai très peur que ma fille, quand elle verra le film, ou alors quand elle aura l'âge de l'adolescente du film, et qu'elle me dira, mais mon con, tu crois donner des leçons? T'as cru que t'étais mieux, pauvre type? Voilà, ça, on verra. On en reparle dans 12 ans. Mais
un langage cru, quand même, déjà en perspective.
Ah, bah, moi, ma fille, c'est une cata. Bah, c'est ma fille, quoi. C'est un film. C'est pas le film le moins grossier, hein, que vous venez de voir, hein, quand même. Faut le dire aux gens qui écouteront le podcast. Donc, moi, ma fille me dit que je suis con, par exemple. En fait, je dis tellement que je suis con dans la vie. Je fais, putain, je suis con. Et du coup, quand je fais une erreur, ma fille, elle fait, con, papa. Je fais, c'est vrai. Et en même temps, c'est pas dit méchamment, c'est pas une insulte.
Perspicace.
Bah oui, c'est ça, c'est de la perspicacité, donc je n'en veux pas, c'est pas grave, elle le dit pas méchamment, c'est juste. C'est vrai.
Sur ces bonnes paroles, on enchaîne avec une autre question, oui.
Alors bonsoir, et déjà félicitations pour le film, j'ai vraiment bien aimé, donc voilà, c'est. Merci beaucoup pour ce moment. Et je voulais te poser comme question, en fait, vous en avez parlé un petit peu au début du podcast, mais je voulais savoir si tu avais des recommandations de films qui t'ont inspiré, dans lesquels tu allais piocher pour construire Nous les Leroy, pour qu'on puisse un peu continuer ta réflexion sur ce ton un peu mélancolique entre la comédie et le drame. Mais et merci beaucoup pour ce moment, encore une fois.
C'est gentil, de rien. Alors, j'ai pas fait de référence directe, pour être honnête. Justement, j'ai essayé de fuir ça parce que je l'ai beaucoup fait quand j'étais sur Internet. Et puis, je trouve que c'est un peu un tic qu'a notre génération. Tu vois, la génération des gens qui ont grandi avec J.J. Abrams, Josh Whedon et tout. On a tendance, des fois, à faire du clin d'œil un peu gratos. Donc, j'ai essayé de pas trop en faire. J'en ai fait pour les gens qui écoutent le Floodcast, etc., parce que je trouvais que c'est quand même grâce à eux aussi si on en est là, donc je trouvais que c'était de bonne guerre quand même. Mais sinon, dans le cinéma directement, j'en ai pas fait. Après, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, dans le cinéma qui a infusé, on a cité Tandem. Ça, c'est vraiment un chef-d'œuvre absolu sur en gros, c'est l'histoire de Jean Rochefort, qui joue un animateur radio un peu sur la fin, qui fait le tour de France pour animer une émission de radio qui marche plus trop, et une émission qui fait en direct. et son preneur son va découvrir bah, la vie de ce gars qui est un peu une rockstar mais qui est dépassé. Ils vont un peu avoir une relation d'amitié, mais aussi j'aime bien les relations maître-élève. Ça, c'est un truc que j'aime énormément au cinéma.
Interprété par Gérard Jugnot.
Qui est interprété par Gérard Jugnot sans moustache à l'époque. Et déjà, il se passe quelque chose à l'image.
Donc ça, c'est un spectacle.
Ouais, déjà. Et non, et c'est un film drôle, émouvant, touchant, poétique même. Il y a des trucs un peu bizarres dans le film, mais qui pour moi marchent très bien.
Avec une musique incroyable.
Musique exceptionnelle de Bachelet, je crois, c'est ça, Pierre Bachelet, je sais plus.
Wow, mais ouais. On est peut-être parti sur un sujet un peu trop précis.
Ouais, c'est ça. Pardon. Mais voilà, en tout cas, c'est un chef-d'œuvre absolu. Funny People, ça pour le coup, c'est un film, je le mate une fois par an et c'est un film qui est très important pour moi et de Judd Apatow et qui est, voilà, pareil, un truc qui, ça dure 2h30, mais moi je trouve que ça passe très vite. Plein de gens sont pas d'accord avec moi, mais moi c'est un film avec qui j'adore traîner avec les personnages, j'adore les écouter, je trouve que c'est drôle, c'est touchant, ça soulève des questions sur la vie. Mais en règle générale, vous voyez tout, Judd Apatow, peut-être pas le truc qu'il a fait pour Netflix, mais tous les autres, franchement, King of Staten Island, même dans les derniers, moi j'adore Train Wreck, j'adore This is 40, c'est voilà, c'est des films que j'adore. Et sinon, j'ai quoi d'autre? Bah, Le goût des autres. Mais après, c'est des chefs-d'œuvre hein, que je vous cite. Hein. Moi, je vous dis pas que c'est. Voilà, je vous cite que des films mieux que celui que vous venez de voir. Hein. Mais voilà, Le goût des autres, c'est exceptionnel. Il y a quoi d'autre? Putain, j'en ai évidemment. Boyhood de Richard Linklater. C'est un film que, pareil, qui est super sur la famille. C'est des personnages un petit peu plus positifs que les miens, mais c'est à hauteur de problèmes d'enfants, d'ados en plus. Alors, tout le monde parlait de ce truc parce qu'il l'a tourné sur 15 ans, je crois, un truc comme ça, ou 20 ans. Donc, en fait, tu vois le vrai gamin grandir au fil du film. Bon, c'est génial, mais en vrai de vrai, même sans ce truc-là, c'est vraiment un super film, quoi. Ça, c'est presque le truc pour appâter les gens. Mais le film en lui-même, il est vraiment exceptionnel. Et en même temps, Richard Linklater, c'est rarement. Et je me rends compte que j'adore les cinéastes qui font des films très différents les uns des autres. Linklater, il peut te faire School of Rock avec Jack Black et ça. Le Comte, il peut te faire Les Bronzés comme Tandem, comme La fille sur le pont, etc. Donc voilà, j'en ai dit quelques-uns là déjà. James L. Brooks, Tendre Passion, super film aussi. Ah, comment ça s'appelle? Putain. De Mike
La soupe aux choux.
Ouais, bah cela dit, oui aussi. Rire et émotion. On est et vaisseaux spatiaux, donc c'est pas mal.
Et musique de fou.
Et aussi musique de fou. Non, Mike Nichols, Ce plaisir qu'on dit charnel. Film très intéressant parce que donc tout le monde connaît le lauréat de Mike Nichols, voilà, avec Dustin Hoffman qui est aussi un très grand film. Mais Ce plaisir qu'on dit charnel, c'est le film qu'il a fait après. Et c'est un film très dur. C'est un film qui présente vraiment des sales types, mais moi je trouve qu'il les présente sans empathie. Et du coup, c'est extrêmement intense, c'est même en avance sur son temps. Plein de choses qu'on a dit et qu'on dit aujourd'hui sur le comportement toxique des hommes ou des choses comme ça. Ce film-là, Ce plaisir qu'on est avec Jack Nicholson et Mike Nichols, il a la et avec Garfunkel, de Simon & Garfunkel. Et Mike Nichols, il a ce génie, surtout au début de sa carrière, mais je trouve que c'est un peu tout le temps, même dans Closer, t'as ça, mais il filme les engueulades comme personne. Et moi, je pensais souvent à Mike Nichols sur mes scènes d'engueulades parce qu'elles ont l'air vraies et elles sont glaçantes. Il y a une engueulade dans Ce plaisir qu'on dit charnel sur le lit avec Nicholson qui est tout en manipulation, c'est atroce. Mais voilà, les engueulades de Virginia Woolf, elles sont incroyables aussi, donc voilà. Je t'en ai dit pas mal. Voilà, vous pouvez regarder tout ça.
Une bonne watchlist. On va prendre des dernières questions. Est-ce qu'il en reste dans la salle? Ah bon, peut-être pas en prendre les dernières, parce que s'il n'y en a plus du tout, si,
il y en a une.
Et bien, ça sera la dernière, justement. Sauf si quelqu'un se dévoue.
Ou si vous avez des questions sur Dune 2, je peux en répondre aussi.
Moi, comme tout le monde ici, j'ai l'impression que j'ai vraiment adoré. Merci pour le film. Et j'ai une question rapide. D'où est venue cette idée de la métaphore avec la canette?
Ah, oui. Oh, est-ce que c'est spoiler? Non, pas tant, ça va encore.
Mais j'ai pas l'impression qu'il y a eu tant de spoilers au final.
Non, je suis ravi de ça. Je suis très heureux. En gros, c'est. Moi, je suis un auteur, je pense, qui est surtout sur les dialogues. Mais c'était hors de question de faire un film où ça fait que tchatcher. Donc, j'essayais de trouver des petites symboliques. Donc, là, c'est la plus évidente. Il y en a d'autres que les gens voient moins, donc je suis content. Parce que je me dis, bah, s'il y a des gens qui aiment bien le film, ils vont peut-être le re-regarder. Et s'ils le re-regardent, je trouverais ça cool qu'ils voient d'autres trucs en le re-regardant. Donc, j'ai essayé de cacher des choses comme ça. Donc, effectivement, la canette, c'est la plus évidente. J'avais envie de, ouais, qu'on symbolise des choses, que traversent les personnages par des petits moments. Voilà. Donc, effectivement, la canette avec Charlotte, il y a un truc d'attrapage de clés aussi au début, le petit y arrive pas, à la fin il y arrive, des choses comme ça. La BO aussi, la BO, en fait, si vous lisez les paroles, un peu toutes les chansons, c'est un peu l'état d'esprit des personnages au moment du film. Ça, c'est un truc sur lequel j'ai vachement bossé. Donc, si vous pouviez le remarquer, ce serait chambé. Non, mais voilà. Donc voilà, des petits trucs comme ça, j'en ai mis à droite, à gauche. Et puis beaucoup de films, beaucoup de répliques, pardon, parlent du fait de se parler ou de discuter. Tu vois, ça sert à rien de parler avec lui. Le fait de pas écouter les messages de répondeurs, voilà, il y a beaucoup de le vrai thème du film. J'ai l'impression que c'est la communication dans la famille, et donc du coup j'ai fait en sorte qu'il y ait beaucoup de répliques qui aient un peu un double sens sur le fait de se parler, de ou de ne pas se parler.
Voilà. Et puis peut-être juste une dernière petite chose, mais c'est même une remarque. Il y a quelque chose qui revient beaucoup dans ton œuvre, que ce soit le Floodcast, qui fait partie de ton œuvre, et Nous les Leroy, qu'on a pu découvrir, redécouvrir ce soir. C'est toutes ces références au Futuroscope et au Puy du Fou. Alors ça, c'est quand même un gimmick, presque, maintenant. Est-ce que c'est une petite signature que t'aimes glisser un peu partout dans tous tes projets ?
Même pas, c'est juste... C'est des mots qui sont marrants, quoi. Et il y a quand même tout un... Enfin... Tu vois, le Puy du Fou, encore une fois, il faut prendre du recul sur ce que c'est, et je trouve ça dingue qu'on l'accepte. C'est un truc de chevalerie sur la Révolution, mais c'est bizarre parce que c'est vu par des monarques. Enfin, c'est... Bon, bref. Et c'est tout un passif. C'est tout... En fait, j'aime bien quand... Et encore une fois, je vais citer les mêmes, mais les Apatow, les trucs comme ça, quand ils...
Alors là, comment tu vas réussir à lier quand... Jude Apatow au Puy du Fou?
Mais si, parce que, en fait, c'est ce truc de... Ils fouillent dans leur culturel, tu vois. Ils fouillent dans leur truc. Moi, les films d'Apatow, quand je les ai découverts, il y avait des vannes, je les captais pas, parce que si t'as pas le câble aux États-Unis en 2004... T'as pas la rêve, quoi. Et moi, j'aime bien ce truc-là. Et du coup, moi, je voulais le faire en France, quoi. Et oui, c'est des petits clins d'œil aux gens qui suivent le podcast, mais à la base, c'est même pas ça. Je me suis dit, c'est trop marrant que le summum du voyage pour l'un, ce soit le Puy du Fou, et pour l'autre, c'est le Futuroscope. Et vu que l'un, en plus, représente un peu le fantôme du Noël futur de l'autre, c'était pour lui. En fait, c'est pas gratos, par exemple, la référence au Puy du Fou. C'est que, bon, ça, je peux le dire, c'est un mini spoiler, mais pas énorme. En plus, c'est dans la bande-annonce. José Garcia emmène souvent ses enfants au Futuroscope et sa famille. Et quand il va voir son pote, quand ça va plus avec sa femme, son pote, il dit, bah, moi, je l'emmène au Puy du Fou, c'est cool. Et vu que ce gars, c'est un peu le personnage que joue Lies Salem, Claude, c'est un peu lui en plus beauf, qui est divorcé, qui est avec son, qui est en plus loser encore, bah, c'est pas complètement gratos, quoi. Donc, aussi, pour les fans du Futuroscope, évidemment, le Futuroscope est bien au-dessus du Puy du Fou. Stations là-dessus.
On fera une tier list, un des meilleurs parcs à thème français, mais
le Puy du Fou est tout en bas. Voilà, j'y suis jamais allé, j'y foutrai jamais les pieds, mais sachez que c'est tout en bas.
Mais d'ailleurs, tu...
Pour moi, voilà, il y a des chevaliers dans la salle. Voilà. Je vois quelqu'un qui vient de brandir une épée. Non, mais tout va bien.
Et les deux Villiers vont monter vent debout.
Qui vient de me lâcher un aigle dans la gueule.
Attention. Non, mais d'ailleurs, t'arrives, juste une dernière remarque là-dessus, t'arrives à faire décrire la Vienne dynamique par Charlotte Gainsbourg. C'est quand même un exercice, une pirouette assez...
Alors, très honnêtement, c'est le truc dont je suis le plus fier de toute ma carrière.
Je comprends.
Vraiment, parce que, voilà, on lui souhaite évidemment de rester en vie très longtemps à Charlotte, mais si, au moment des Césars, quand elle sera décédée, il peut y avoir cette réplique entre des trucs sublimes avec Lars von Trier...
Avant qu'elle ne décède, peut-être un César d'honneur, sinon...
Bien sûr. Ah oui, il y a ça. Ça aurait été mieux.
Meilleur montage.
Bon, tu me sauveras là-dessus, t'es gentil. Ouais, ça a le budget, tu me coupes les deux questions.
On va faire ça.
Non, mais tu vois, c'est tellement drôle, en fait, d'avoir une actrice si forte qui peut mettre autant d'émotions dans décrire la Vienne dynamique. C'est quand même un cadeau du ciel, quoi, d'avoir la chance d'avoir cette meuf dans son film. Donc je la remercierai jamais assez.
Est-ce que le pari de chacun de tes films maintenant serait pas de décrire un des différents pavillons du Futuroscope?
Une attraction
par film.
Une attraction pas ouf de France.
Voilà.
Ou même d'Europe.
Oui,
ou
oui.
Une attraction d'Europa Park par Fanny Ardant. Ouais, je vais voir. Je vais commencer à réfléchir.
Ah, j'ai envie de voir ça.
Ouais, tu vois.
Florent Bernard, merci beaucoup.
Et merci à vous. Merci d'avoir été avec nous. Merci beaucoup.
Avant de terminer cet épisode, je voudrais passer justement au remerciement. Je voudrais remercier Virgile et ses équipes du Pâté Alésia de nous avoir accueillis pour ce premier événement. Merci à Thomas, la technique, de nous avoir accompagnés. Vous pouvez les applaudir pendant tout l'enregistrement. Merci à Marina, la programmation, aux équipes d'Apollo Film, à OV Studio pour la captation vidéo, à Docker, notre partenaire, et à vous qui nous écoutez chez vous, et à vous d'avoir été dans cette salle pour cet événement spécial. Il y en aura d'autres. Oui, voilà. Restez à l'affût des prochains rendez-vous. Il y en aura d'autres, des épisodes enregistrés en public. Encore une fois, merci beaucoup, Florent.
Merci à vous.
Avec ce magnifique film qui est notre label Coup de cœur, qui sort donc cette semaine au cinéma le 10 avril. Et enfin, merci à l'équipe. Merci Gaël. Merci Lisa et merci Robin.
Merci.
On peut les applaudir.
Merci.
On se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode du podcast. D'ici là, prenez soin de vous et à très bientôt au cinéma. Merci beaucoup.
Merci.